Jean-Patrick, bonjour.
Bonjour.
Que deviens-tu depuis février?
Oh, ben je fais des rencontres. J'en fais une par mois, quelquefois deux par mois. Dernière, c'était à Cavaillon. Celle-ci, c'est à Chambéry. Ça se passe de mieux en mieux. Il y a quelques musiciens qui commencent à nous suivre de rendez-vous en rendez-vous. Et ça s'enrichit de plus en plus. Et celle-là, à Chambéry, c'est la dernière. C'est la dernière... Parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit libre pour peindre. Je veux revenir à la peinture que j'ai interrompue il y a, disons, un certain nombre de décennies pour chanter. Et je préfère devenir un peintre qui chante de temps en temps qu'un chanteur qui peint quand il a le temps.
Tu vas mettre ta peinture en musique ?
Je pense pas mettre ma peinture en musique, mais j'écoute beaucoup de musique en peignant. J'écoute de la musique arménienne, j'écoute de la musique... De la musique de l'ouest de l'Afrique. J'écoute Tom Waits, j'écoute Ralph Vaughan Williams, j'écoute voilà, quelques favoris comme ça qui reviennent, et en fonction des moments. C'est marrant comme c'est lié d'ailleurs, le genre de musique qu'on écoute avec le genre de peinture qu'on fait au moment où on l'a fait. Il y a des choses qui vont avec une démarche de peinture, puis l'autre, il faut absolument changer la musique, quoi, je le sens. Des moments où ça ne va plus avec ce que je suis en train de faire, donc je change la musique et je me lance dans un autre moment de peinture. Parce que je fais une peinture dans laquelle il y a beaucoup d'éléments très différents mélangés, et donc c'est beaucoup d'attitudes différentes. Et comme c'est des grandes toiles en plus, et ça exige beaucoup d'attention et la musique ne disperse pas l'attention, curieusement. Au contraire, elle permet de la diriger vers un point focal, comme ça.
Ton atelier, c'est tout Rueil ?
C'est à Rueil, oui, tout à fait. C'est à Rueil, là où j'ai fait brûler des images inspirées du Suaire de Turin. Je continue à faire un petit peu dans l'alchimie picturale, comme ça. Je peins beaucoup avec du goudron, avec des dépouilles animales. Là, j'attends des chauves-souris sur une prochaine toile qui va s'appeler... La naissance des saisons, qui est inspirée du mythe de Perséphone. Perséphone enlevée par Hadès, seigneur des enfers, et qui, lorsqu'il l'autorise à remonter, pour une histoire un peu longue, l'autorise à remonter 6 mois par an à la surface de la Terre, comme elle est la fille de la déesse de la fertilité, ça crée les saisons. C'est un très beau mythe, je trouve. Voilà, je suis dans un moment passionnant de peinture, parce que depuis que j'ai cessé de peindre avec constance, j'ai peint pendant ces 40 ans, j'ai peint à mes moments perdus. Depuis que j'ai cessé de peindre avec constance, il y a des tas de techniques, des tas de nouveaux... des nouvelles matières qui sont apparues ou qui existaient mais dont je me servais pas. Je me sers de peinture d'appartement. Je me sers de ça. Je me sers de crayons à l'huile. C'est de la peinture à l'huile mais dure. Tu peux t'en servir comme d'un marqueur ou comme ça donne des matières très particulières. Je me sers de laques très diverses, de pigments qu'on jette sur la toile. C'est des choses qui sont nouvelles pour moi, et c'est passionnant de découvrir les possibilités à chaque fois. Chaque tableau remet en question tous ceux que j'ai fait avant, quoi. C'est systématique, c'est un moment passionnant, quoi. Voilà.
Comme pour la musique, les tableaux se superposent petit à petit, c'est pareil ?
Oui, c'est exactement ça. C'est très curieux parce que j'ai retrouvé la technique que j'avais dans les derniers grands tableaux que j'ai peints juste après la mort de mon père. Donc il y a 30 et quelques années, 35 ans, c'est la technique, c'est exactement ça. J'ai retrouvé ça, cette manie de je peins tout un truc et puis finalement je recours avec autre chose et je garde quelques bribes et puis ensuite de ce truc-là je garde encore quelques bribes, etc., etc., avec une idée directrice au départ qui quelquefois se transforme, je dois dire, et puis quelquefois se transforme pas. Ce qui est important pour moi, c'est que ça me donne, au résultat, ça donne quelque chose qui me surprenne. Je cherche pas à avoir une sorte de confort à retrouver une sorte de confort. Je ne cherche pas à arriver à quelque chose où je me dise, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ce que je préfère, c'est, tiens, je peux accepter ça, mais quand même, ça me surprend, je n'avais pas prévu. Enfin, c'est le résultat que j'essaie de d'atteindre à chaque fois.
Il y a toujours un regard de quelqu'un d'autre qui juge ou qui regarde tes pointes, tes peintures, tes toiles ?
Il y a quelques personnes qui les voient, mais je ne leur demande pas de jugement, je ne leur demande pas d'estimation. Je les vois parce qu'ils sont curieux. Pour l'instant, je vais attendre d'en avoir fait une douzaine ou une quinzaine, et puis je vais aller à Londres où on a une amie qui connaît une galerie très importante à laquelle je vais aller proposer. C'est difficile de les proposer en elles-mêmes parce qu'elles font 2 mètres sur 2, elles sont grandes, j'ai pris le parti pour cette première volée de peinture, de peindre que des toiles carrées de 2 mètres sur 2. C'est sans doute le CD, l'habitude de la pochette du CD qui est à peu près carré. C'est ça qui m'inspire. On dit toujours que c'est un format difficile. Et comme c'est un format difficile, il y a peu de gens qui l'exploitent, donc c'est encore mieux. Je peux avoir moins de références, moins de choses sur lesquelles m'appuyer, quoi.
Oui, le champ de vision, c'est plus ce format 16/9 de 35.
C'est-à-dire qu'en fait, ça amène à une espèce d'exploration de la toile comme un puzzle. Il faut être assez loin pour découvrir son centre à la toile. Il faut être assez éloigné. Sans ça, je fais ça et je vois les gens le faire aussi. Tu vois. Alors ça peut être considéré comme un défaut, je sais pas. Encore que, on va dire, quand tu vas visiter une grotte et que tu regardes des peintures de parois comme ça, tu as le regard qui se promène aussi, quoi. C'est un peu l'art pariétal, c'est une forme d'art très très importante pour moi.
De toute façon, quand on regarde quelque chose, c'est toujours la découverte, c'est toujours ce qui prime en premier.
Oui, mais il y a des gens qui disent qu'il faut avoir un centre focal, un truc qu'on regarde, et puis ensuite on découvre autour de ça. Moi, je n'ai pas de théorie à ce sujet-là. J'essaie de faire des images qui sont entre le sens et l'émotion esthétique. J'essaie de dire des choses. J'essaie de dire des choses. C'est un peu comme dans mes chansons. Je dis des choses auxquelles je trouve un sens, mais ça ne veut pas dire que le sens que je leur trouve est le sens obligatoire. Je veux dire, il y a chacun peut y trouver un sens, et il est aussi valable que le mien, le sens qu'on lui attribue, quoi.
Et comme pour les peintures, les paroles que tu mets sur tes musiques, tu peux les changer ?
Bah, je l'ai souvent fait au début de ma carrière, parce que j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup pour chaque chanson, j'écrivais beaucoup. J'avais toujours trop de matière. Donc je me souvenais pas toujours de la version qui était sur le disque. Il m'arrivait sur scène de chanter d'autres paroles. Les gens en premier plan vrillaient leurs doigts, leur index sur leur tempe, l'air de dire mais ça va pas, t'es pas au courant, c'est pas ça les paroles. Et aujourd'hui, quelquefois, je pense peut-être améliorer légèrement certaines chansons. Il m'arrive de changer une phrase dedans, de la construire différemment, parce que c'est ma sensibilité d'aujourd'hui qui est comme ça, quoi.
Ce soir, tu chantes à Chambéry. Tu vas te faire un beau cadeau pour ton anniversaire, futur anniversaire. Tu vas enregistrer un double live, un live du moins.
Oui, on va enregistrer ces 17, je sais pas combien, je crois qu'il y aura 17 chansons. Pour la première fois, je vais chanter une chanson qui n'est pas de moi. Je ne sais pas si c'est de la modestie ou de la fierté, mais je n'ai jamais chanté sur scène une chanson que je n'avais pas écrite. Celle-là, c'est une chanson de Tom Waits qui s'appelle Time. Et c'est une chanson que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup toute une partie de la production de Tom Waits. J'ai hésité entre Jersey Girl et Time, et je pense que Time me parle plus en ce moment que Jersey Girl.
Et au niveau du timbre de la voix, tu vas faire comment ?
Ah ben je vais pas chercher à l'imiter, je vais pas faire comme ça, non, je vais pas faire ça. Je vais chanter comme je chante, tu vois. Ben, c'est une chanson qui doit être chantée un petit peu avec une voix un peu voilée, de toute façon, parce que c'est c'est dans l'esprit de cette chanson-là, mais c'est pas obligé de faire comme lui quand il veut faire des voix d'alcoolique et des choses comme ça. Quelquefois, il pousse les choses un peu loin, il pousse le bouchon un peu loin, quelquefois. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec lui, c'est qu'il n'est jamais ridicule, quoi. Il est toujours crédible, même quand c'est dans l'outrance. C'est un très très grand, lui, Tamouette. C'est à la fois un comédien, un compositeur, un créateur d'univers, de monde. Quand il annonce une chanson qui s'appelle The Nickel, quand il annonce it's a kind of a hobo lullaby, rien que de dire ça avec sa voix. So there's a little place called The Nickel. All the vinyls there call it The Nickel. C'est magique quand les gens sont comme ça. C'est comme les très grands acteurs de cinéma. C'est souvent une voix et un physique et un comportement. Pour citer quelqu'un qui est pas un très grand acteur, mais qui est un acteur très connu, qui est Harrison Ford. Harrison Ford dit toujours, quand on lui demande « Comment vous avez pris ce personnage ?» Il dit « c'est toujours Harrison Ford. » Il dit « Moi, je suis moi, je lis le texte. » Et quand tu vois Humphrey Bogart, qui était un immense acteur, finalement, les seuls moments où Humphrey Bogart est mauvais, c'est quand il joue, quand il fait dans l'outrance. Ça arrive quelquefois. Des trucs comme ça. Et c'est pas bien. Mais quand il se contente d'être Humphrey Bogart, d'un seul coup, il rend le personnage totalement vivant. Et c'est magnifique.
Oui, son personnage dans Ouragan sur le Quai, c'est un peu ce que tu es en train d'expliquer.
Oui, enfin, dans tout, dans à quoi je pensais, là. Je pensais à... ce truc de « The stuff dreams are made of », quand il dit... c'est dans quoi ça? C'est le Faucon Maltais, c'est ça? C'est dans le Faucon Maltais où il dit de quoi est fait cet objet? The stuff dreams are made of, de la matière des rêves. Et tout cette façon presque inflexible qu'il a d'être dans la dureté ou dans la compassion. Il est inébranlable, quoi. Et Tom Waits. Dans cette espèce de délire d'alcoolo comme ça qu'il a créé autour de lui, il est crédible dans tous ces personnages comme ça qu'il évoque. Même il a une chanson dans laquelle il y a une prostituée qui est enceinte et qui réclame de l'argent à un ex-amant, etc., qui explique ce qu'elle est devenue, etc. Et tu te poses même pas la question du sexe, quoi. C'est vrai, quoi. C'est extraordinaire. Donc voilà, ce soir, je vais chanter bien modestement une chanson qui s'appelle Time, de lui.
Et contrairement à tes précédents tours de chant, là, tu vas faire donc à peu près 17 morceaux. Tu les as étoffés un peu plus. C'est toujours les mêmes musiciens que tu utilises ?
Non, c'est à chaque fois des musiciens différents, sauf quelques-uns qui reviennent. Et comme c'est la dernière, il y en a qui ont joué avec moi. Il y a Ellie Tournefier qui vient de Gien pour jouer ça un petit peu. Il y a Romain Beignatou qui est un guitariste aussi. Il y a Daniel Carlier, un saxophoniste qui a joué avec moi. Et puis il y a François Vichic qui a fait quatre ou cinq concerts avec moi, qui revient. Et puis les autres, c'est des musiciens locaux que je ne connais pas encore et qui je n'ai pas encore joué. Après cette interview, je vais aller répéter avec eux. Et on fait comme à chaque fois, quoi. On répète jusqu'à 5 minutes avant d'ouvrir les portes au public. Et puis... Puis après, vogue la galère, on voit ce qui se passe.
Ils auront la possibilité de s'exprimer un petit peu plus que sur les partitions qu'ils jouent.
Peut-être les guitaristes, peut-être le saxophoniste aussi. Bon, on ne va pas faire solo de batterie, solo de basse, etc. On ne va pas faire ça. Il faudrait plus de place, il faudrait 2h30 de concert. C'est quand même, ça reste quand même des chansons, quoi. Tu vois, c'est des chansons. C'est pas forcément un vrai concert de rock, j'imagine. C'est pas comme un groupe où on a pris des habitudes les uns par rapport aux autres. C'est un peu les limites de l'exercice. Ça. C'est que Ça peut fonctionner si on a pas mal de rigueur. Si on commence à ouvrir la porte à toutes les initiatives personnelles dans ce genre de truc, ça devient une jam. Et les gens qui viennent, ils viennent écouter des chansons quand même. Surtout pour la dernière, surtout c'est des gens qui retrouvent soit leur adolescence, soit en plus petit nombre, les gens qui ont écouté ce que leurs parents écoutaient. Il faut pas les décevoir. Ils ont le droit de trouver ce qui... Moi, je me fais un plaisir en faisant ce truc-là. Je crois que les musiciens sont contents d'être là. Ils viennent gracieusement, ils viennent... Donc il faut que le public soit heureux aussi. Et donc il faut restituer quelque chose qui soit proche de ce qu'ils attendent.
Ton souhait également, c'était que le public participe en enregistrant pour un éventuel live que tu vas faire ce soir. Tu utiliserais leurs enregistrements pour les intégrer ?
Oui, bien sûr, mais aussi bien les amis qui vont venir chanter en duo avec moi, bien sûr. Et puis je vais faire comme je fais depuis quelques rencontres. Je les laisse chanter quand t'es dans le désert, je m'éloigne un peu et puis je les laisse chanter tout seul sur scène quand t'es dans le désert. Quand ils pataugent un peu sur les couplets, je remonte et je les reprends avec eux. Mais et puis ça sera honnête, on va pas essayer d'améliorer le truc. Bien sûr, Patrice Kung va le mixer pour en tirer le meilleur son possible. Mais on va pas découper dedans pour garder les meilleurs moments et tout ça. C'est vraiment l'expérience globale de ce soir qui va être restituée. Je crois beaucoup à ces choses-là, moi.
Ce soir, il va y avoir plus de 700 personnes qui vont t'accueillir, te faire la joie. Tu as vécu ça depuis longtemps ?
Tu veux dire à ce niveau de fréquentation ? Non, avec les rencontres, on tournait plutôt autour de 300-400. C'est la plus grosse. On verra s'ils viennent tous. Quelquefois, les gens réservent et ils ne viennent pas tous. Jusqu'à présent, on a 15% qui ne viennent pas parmi ceux qui ont réservé. Mais je pense que ça sera la plus grosse rencontre qu'on aura faite, oui. Tant mieux, ça va. C'est ce que tout le monde dit, mais t'es fou d'arrêter maintenant, etc. Mais il faut dire aussi que la fille qui a organisé ça avec Stéphanie Longer, à Munich, qui a organisé ça, elle a vraiment beaucoup travaillé. Ça fait longtemps qu'elle est sur ce projet, ça fait plusieurs mois qu'elle travaille là-dessus, depuis avril, je crois. Donc elle a trouvé des tas de sponsors, il y a une dizaine de sponsors différents, C'est vraiment du travail, hein. Pour réussir à faire un truc comme ça gratuitement, il faut vraiment mouiller le maillot. Hein. Et elles ont Stéphanie est formidable qui s'occupe de la coordination de tout ça. Elle est prise souvent entre les t'as les fans hardcore qui réclament de venir au répé, etc. Là, par exemple, il s'est passé un incident ici, c'est que ils ont un accord qui ne les autorise pas à être... un accord avec la mairie, je crois, qui ne les autorise pas à accueillir des gens pendant les répétitions. Et les fans n'ont pas compris. Il y a des fans qui font 500, 600 kilomètres pour venir et n'ont pas compris de ne pas pouvoir être aux répétitions. Donc c'est Stéphanie qui a arrangé tout ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est parce que tu n'avais pas arrangé tout ça qu'on ne pouvait pas venir, etc. » Alors que c'est exactement le contraire qui s'est passé, quoi. Mais on se heurte toujours à ce genre d'incompréhension, ça arrive toujours, et puis les choses s'arrangent.
Et l'après ?
L'après, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais faire un blog où je donnerai de mes nouvelles, de ce que je fais, où je ferai découvrir des choses que j'aime, des groupes que j'aime, la musique que j'aime, la peinture que j'aime. Je parlerai de ma peinture aussi, et puis les gens pourront y retrouver... mes albums principaux en vinyle, au fur et à mesure on va les sortir. Ils vont retrouver ce live, ils peuvent trouver des t-shirts, des machins, tout des trucs classiques, des chanteurs qui... Bon, j'aime pas l'idée de me transformer en marchand de fringues, mais les gens aiment bien ça. Alors s'ils aiment bien ça, pourquoi pas, tu vois, moi ça me permet... Est-ce que je gagne là-dessus? Ça me permet de financer d'autres choses, ça me permet de financer, par exemple, le fait de faire des vinyles. Et ils me réclament tous des vinyles. Il faut bien que je les paye, les vinyles. Il faut bien que je... Tu vois c'est une machine qui est faite pour... pas pour dégager des bénéfices, mais pour faire plaisir aux gens et pour me faire plaisir aussi. Qu'on aille toujours plus loin, qu'on... C'est vrai que on me le dit, et je vais finir par le croire, que ce qu'on est en train de faire avec, avec ces concerts rencontres, c'est un peu unique en France. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Et on fédère des gens, mais même aujourd'hui, même si les tourneurs officiels en parlent avec un peu d'ironie de ce qu'on fait, n'empêche qu'ils en parlent.
Pour ton album Bienvenue au Paradis, il y a tellement de monde qui l'a pris que tu es obligé de faire un repressage.
C'est le quatrième repressage, là. C'est le quatrième repressage, et là, on a finalement fait la pochette que je voulais depuis le début, celle qu'on avait mise au point avec Catherine Bedert. Et voilà, là, je partais hier de Paris, enfin de Saint-Cloud, pour venir ici, et j'ai eu juste la veille, j'ai eu les nouveaux pressages, on a failli ne pas les avoir. Stéphanie commençait à avoir peur, et moi aussi, et c'est arrivé dans les temps. On est content de les avoir, on en a quelques-uns ici. On en a amené 150, quelque chose comme ça. On verra si ça plaît aux gens. Voilà.
Merci.
Merci à toi.